Alors, notre réflexion d'aujourd'hui, de ce matin, pour ce web source, c'est donc le psaume 73. Et vous avez ici en image une page du Codex de Léningrad, c'est-à-dire d'un ensemble de rouleaux de velin, c'est-à-dire de peau, de fœtus de veau, sur lesquels sont écrits les livres de ce qu'on appelle l'Ancien Testament, ce qui est la Bible des Juifs. Et voyez le soin qui est apporté à un seul verset, puisqu'il y a sur cette seule image, il y a un seul verset d'un psaume. Je trouve que c'est très, très intéressant de voir l'attention avec laquelle les écrivains ont écrit la Bible. Et donc le Codex de Léningrad date de, je crois, environ 1065. Hein, c'est le plus vieux manuscrit complet de la Bible que le monde ait en sa possession. Alors j'ai trouvé intéressante cette réflexion d'André Chouraqui, qui a traduit la Bible, qui a écrit aussi différentes choses, et qui dit « Les psaumes, 150 miroirs de nos révoltes et de nos fidélités, de nos agonies et de nos résurrections. » Il montre là que les psaumes sont un miroir, c'est-à-dire c'est quelque chose dans lequel on se reconnaît, on se retrouve, on se comprend. Et puis il y a des révoltes et des fidélités, des agonies, des résurrections. Et c'est un peu ce qui se passe dans ce psaume 73, on va le voir. Peut-être que, en introduction, ce que je voudrais dire, c'est que on a tout un tas de personnages bibliques qui sont dans la Bible et qui nous servent de modèles bons ou mauvais. Adam et Ève, Noé, Abraham, Moïse, etc. Ruth, Esther, Déborah, il y a quantité de personnes qui nous sont montrées comme modèles, c'est-à-dire des gens de qui on voit la vie sous toutes ses coutures, et on peut en tirer un modèle, et c'est très intéressant. C'est pas un problème que le modèle soit bon ou mauvais. C'est un modèle. Quand on voit, par exemple, quelqu'un se mettre en colère et ne pas aboutir, on peut dire, tiens, comment se fait-il que sa colère n'aboutit pas? Quand on voit quelqu'un qui est impatient ou quelqu'un qui est désolé, c'est aussi un modèle. Ça nous amène à réfléchir, ça nous amène à avancer avec Dieu. Et par ailleurs, un psaume, c'est un écrit complet, c'est-à-dire quand un psaume fait 10, 15, 20, 30, 178 versets, comme le psaume 119, c'est un écrit complet. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cet écrit complet nous amène à une réflexion complète. C'est comme l'épître de Jude, qui est très courte, ou l'épître à Philémon. Elle est courte, elle nous amène à une réflexion complète. Et donc, c'est intéressant de voir ce que Asaph va dire complètement dans son psaume 73. Le fait que le psaume soit court, ça nous permet de pas être obligé de prendre trop de temps pour savoir tout ce que Asaph veut nous dire. C'est pour ça que l'objectif que je vous propose, c'est de comprendre les difficultés décrites par Asaph pour en tirer leçon pour soi-même. Donc, j'aimerais bien que cette expression reste dans la pensée de chacun. Si jamais on vous dit, ah, le psaume 73 d'Asaph, de quoi Guillaume Argaud a-t-il parlé? Eh bien, il a parlé de comprendre les difficultés décrites par Asaph pour en tirer leçon pour soi-même. Alors, dans cette perspective, je vous propose un plan qui est de voir un peu comment est-ce que, qui est Asaph et qu'est-ce que c'est qu'un psaume. Voilà, de voir dans son psaume ce qu'on peut appeler sa confession et son chemin de libération, et puis d'en faire des applications pratiques pour nous. Alors vous verrez le plan en haut à droite dans la diapositive. On voit maintenant le contexte. Alors le mot psalmos vient du grec ancien, et ça désigne un air joué sur le psaltérion, qui est un instrument à cordes. Quand l'épître aux Éphésiens au chapitre 5, et au verset 19 nous dit de psalmodier, Ça veut dire de chanter ou de chanter un air, un chant religieux accompagné d'un instrument à cordes. Intéressant de voir l'importance des instruments dans la vie du chrétien. Et ce mot traduit dans le psaume 73, non pas psalmos, qui est du grec, mais mizmor, en hébreu, qui désigne alors plus simplement un chant religieux accompagné de musique. Donc il y a peut-être dans la tradition grecque, dans la manière de faire grec, quelque chose de plus qui va noter l'instrument à cordes qui accompagnera le psaume. Dans le livre des psaumes, et faites bien attention à couper vos micros, s'il vous plaît, dans le livre des psaumes, plutôt le livre des psaumes a une place centrale dans la liturgie juive. Et c'est sûr que quand on voit qu'il y a déjà du temps de Moïse, un cantique en Exode 15, le chant du puits en Nombre 21, versets 17 et 18, on comprend que tous ces chants qui ont été créés par tout un tas de personnes se chantent très très fréquemment et on peut penser qu'il y a des fêtes, dans les fêtes, dans les mariages, au travail, aux ensevelissements, dans la vie politique, à la cour, il y a des chants tels que la Bible nous les décrit et les versets de référence apparaissent sur la diapo. Je voulais simplement dire que la liturgie juive ne se fait pas que dans les rencontres qu'on pourrait qualifier de religieuses, mais aussi dans la vie sociale. Et c'est dire si le chant est important. Et moi qui suis un amateur de chant, c'est souvent que le chant revient tout seul dans mes pensées et me nourrit, ça me fait du bien de chanter. Et j'entends souvent les membres de ma famille ou mes amis chanter sous la douche et manifester quelque chose qui occupe nos pensées. Et c'est très important. Les écrivains, voilà, donc Moïse a écrit le psaume 90, Salomon a écrit deux psaumes, 72, 127. Asaph, les fils de Corée, étant et puis aimant, on en a écrit d'autres, et 49 psaumes sont anonymes. C'est intéressant de voir comme ces chants qui accompagnent notre réflexion sur Dieu par le chant, ces chants-là ont été composés par tellement de personnes. On a besoin de cette collectivité. Personnellement, je me réjouis beaucoup de la présence du recueil Reflet qui s'ajoute aux hymnes et cantiques, avec tous ces poètes et ces compositeurs qui ont fait des choses pour l'œuvre de Dieu. Je les estime beaucoup. Le genre des psaumes, il est très très varié. Vous voyez ici sur la diapo la louange, les choses intimes, le combat, la repentance, la plainte. L'exultation, la colère, les douleurs, la tristesse, les perplexités, l'imprécation, c'est-à-dire le fait de vouloir le mal ou un jugement sur quelqu'un, un psaume messianique qui parle du Messie, des psaumes alphabétiques, des psaumes où chaque verset commence par une lettre de l'alphabet hébreu différent, et comme il y a 22 lettres dans l'alphabet hébreu, alors il y a 22 versets. Et on trouve je crois, par exemple, le psaume 9 et 10, qui sont des psaumes alphabétiques, entre autres. C'est intéressant aussi de voir que les psaumes sont cités dans le Nouveau Testament. Alors, j'ai pris juste quelques citations dans les Évangiles, les Actes et les Épîtres. Jésus parle de la loi, des prophètes et des psaumes. C'est dire si le livre des psaumes a une place importante. Éphésiens 5, 19 nous s'appelle à nous entretenir, c'est-à-dire à nous faire du bien les uns aux autres, les uns les autres, par des psaumes, donc de chanter ensemble. Et puis ces citations dans le livre des Actes, chapitre 1, verset 20, chapitre 13, 33, des références aux psaumes, comme quoi les psaumes ne sont pas finalement que de la poésie, mais sont dans un registre dogmatique, doctrinal, qui dit des choses de référence et qui sont dans nos références. Pour le contexte, intéressant de voir ce qu'a pu être la chorale de David. Alors, dans ce que disent les textes, ici en Chronique 6, elle avait trois chefs de chœur. Pour ceux qui ont déjà dirigé une chorale, on se dit, mais comment est-ce qu'on peut diriger une chorale avec trois chefs de chœur? Et on va peut-être voir, comprendre. D'abord, les chefs de chœur sont des lévites. Pourquoi est-ce que ce sont des lévites? Parce que les lévites, ce sont ceux qui sont chargés de servir dans le service pour Dieu. Hein, les lévites sont mis à part, et parmi les lévites, il y a les sacrificateurs, fils d'Aaron, mais il y a trois fils de Lévi, qui sont Gershom, Kehat et Merari, et il y a trois familles de lévites. Et c'est intéressant de voir que du temps de David, il y a trois chefs de chœur, Asaph, Aimant et Ethan, qui est aussi appelé Jédutun, qui sont donc représentants de ces trois familles de Lévites. Comme quoi, les choses sont organisées. Comme quoi, c'est intéressant de voir que le service pour Dieu est organisé et ça nous donne vraiment, ça nous motive à l'organiser nous-mêmes. Dans cette organisation, on voit en 1 Chronique 25, verset 7, qu'il y a 288 chanteurs et musiciens experts. Et en plus de ça, qui jettent le sort pour leur charge. C'est-à-dire que dans cette chorale, et merci de fermer vos micros, s'il vous plaît, dans cette chorale, il y a 288 experts qui vont demander à Dieu, par le sort ici, quelle place ils vont prendre dans la responsabilité du chœur. On se dit, mais quand même, s'il y a 288 responsables, qu'est-ce qu'il en est de la chorale? Et c'est intéressant de voir que 1 Chronique 23, verset 5, dit qu'il y a 4000 chanteurs. 4000. Alors, vous me direz, oui, mais c'est la chorale d'un pays, c'est un peu normal qu'il y ait autant de personnes. Mais finalement, ça nous met un peu, ça met bien les choses à leur place. Hein, si on organisait une chorale de 4000 chanteurs, si on se donnait les moyens d'aller dans ce sens et d'interpréter le psaume 73 avec ses 4000 chanteurs et ses 288 experts et 3 chefs de chœur. Alors, le Talmud, qui est le commentaire des commentaires de la Torah, et qui apparaît au début de l'ère chrétienne et qui est écrit par les Juifs, décrit la manière de chanter les psaumes. Et on lit dans le Talmud, je n'ai pas noté la référence, qu'au signal des cymbales, donc ça commence par le tempo, alors il y a 12 lévites qui se lèvent et qui font rejoindre les lyres et les harpes, donc la mélodie, et puis ensuite les chants avec ce qu'on pourrait appeler la mélodie. Et on va voir que les hommes et les femmes chantent ensemble, mais qu'il y a des réponses, comme par exemple le psaume 136, célébrer l'Éternel, le Dieu des dieux. Ça, c'est ce que dit le cœur, et le répond, ou le cœur, répondra, car sa bonté demeurera toujours, avec quelque chose qui reviendra régulièrement. Et on trouve ces réponses à la messe chez les catholiques, hein, peut-être pour que ce soit plus facile pour les assistants de répondre. On le répond est finalement toujours la même chose. La même mélodie est chantée par les hommes et par les femmes, mais les femmes chantent un octave plus haut. Et on trouve donc des indications, notamment dans l'entête des psaumes, quand on voit que le psaume est chanté sur l'octave. Voilà pour la chorale. Pour Asaph, toujours dans le contexte, intéressant que ce lévite est appelé prophète ou voyant. Autrement dit, la fonction de chef de chœur qu'il prend est extrêmement importante pour qu'il soit appelé prophète. Le prophète, propheimi, pheimi ça veut dire en grec, le prophète c'est le porte-parole de Dieu. La différence entre le prophète et l'enseignant, c'est que le prophète entend la parole de Dieu qu'il doit transmettre et il la transmet. Hein, c'est ce que Agabus fait en acte 21, verset 13, je crois, quand on dit « Ainsi parle le Saint-Esprit, l'homme à qui est cette ceinture, les Juifs le livreront aux Romains, etc. » Agabus fait une prophétie. Et donc, Asaph a cette fonction de prophète ou de voyant. Au passage, il y a une chose que je ne vous ai pas dite, et qui est toujours quand même intéressante à entendre, c'est que les trois chefs de chœur sont donc Asaph, Aimant et Ethan, dans les trois familles des Lévites, mais Aimant et Ethan ceux qui ont écrit les psaumes 88 et 89, je dis ça de mémoire, je ne pense pas me tromper, étant, ne sont pas des Lévites, mais sont de la tribu de Juda, des enfants d'Ezra, et ce sont des gens qui ont composé les psaumes, et donc il ne faut pas se tromper quand on lit le psaume 88, qui est un psaume d'aimant. On voit que c'est aimant, et là, aimant n'est pas un chef de cœur, mais le 89, c'est étant, mais étant n'est pas le chef de cœur lévite, étant, c'est un fils d'Ezra qui a composé le psaume. Voilà, un peu des choses qui nous permettent de savoir tout ça, avec un peu de précision. C'est David qui a donné à Asaph une fonction de musicien, donc intéressant de voir la cooptation. Il faut se connaître, il faut parler ensemble, il faut savoir qui aime quoi, qui a la sensibilité pour faire quoi, qui aura envie de faire quoi, et un peu coordonner tout ça. David est finalement, en tant que roi, un coordinateur. Il est chargé, Asaph est chargé de jouer et de chanter devant Dieu, et on voit que du temps de David, donc environ entre 1100, il y a ces 4000 chanteurs, mais quand les chantres reviennent de Babylone après les 70 années entre 606 et 536 de la transportation, alors il y a 128 chantres, nous dit Esdras 2, 41, qui reviennent de Babylone. C'est donc qu'ils ont conservé non seulement un usage de la chorale, mais aussi certainement des responsables. 128 chantres, ça peut bien être 128 responsables. Alors, intéressant de voir en Chroniques 24 que Asaph se place à la droite de la chorale pendant le service, et lui, il est chargé de la fonction de musicien, alors que certainement, aimant et étant, sont plutôt chargés de la fonction de chant. Le musicien, c'est celui qui utilise les instruments, alors que le chanteur, c'est celui qui chante. Alors, intéressant de voir les 12 psaumes d'Asaph. Intéressant de voir que Asaph, qui est donc un des fils de Lévi, a écrit 12 psaumes, mais les fils de Corée, dont les psaumes commencent au psaume 42, comme une biche soupire auprès des courants d'eau, les fils de Corée en ont écrit 11, Aimant en a écrit 1, Étant en a écrit 1, et Asaph 12. Et je me dis, mais parmi ces Lévites, c'est très intéressant de voir que, par exemple, il y a donc une famille qui n'est pas représentée dans l'écriture des psaumes, puisque finalement c'est Asaph qui a fait le plus de psaumes étant commandité par David. Oui, sauf que David en a écrit de manière nominale, où on a fait écrire 73 qui ont été dans son recueil. Mais Asaph, c'était quand même un monsieur dont 12 psaumes ont été retenus nominalement dans son recueil. Et donc, je me dis, mais ce monsieur, qu'est-ce qu'il a voulu dire? Qu'est-ce qu'il a voulu dire? S'il a fait 12 psaumes, est-ce qu'il a fait ses psaumes sous l'inspiration du moment, en cherchant à dire ce qu'il avait envie de dire au moment où il avait envie de le dire? Ou est-ce que ces 12 psaumes sont une réflexion générale, finalement, sur la vie individuelle et collective du peuple d'Israël? Intéressant de voir comme le psaume 50, par exemple, psaume d'Asaph, est contenu dans le deuxième livre, alors que les autres psaumes d'Asaph sont dans le troisième livre. Intéressant de voir que, alors peut-être que Asaph a commencé par écrire le psaume 50, et puis après a écrit les autres, les livres ayant pu être compilés finalement chronologiquement en fonction de la parution de ces psaumes. C'est une possibilité. Mais intéressant de voir que le psaume 50 est un psaume, de répréhension, un psaume où Asaph parle de la louange adressée à Dieu et finit en disant, voilà, toi qui es un pécheur, toi qui te complais avec les adultères, eh bien, Dieu te parle et Dieu te dit, tu as pensé que j'étais comme toi. C'est un psaume très sévère, le psaume 50. Et peut-être qu'étant isolé dans parmi les autres psaumes, essentiellement de David, voilà, peut-être qu'Asaph a voulu dire quelque chose de particulier avec ce psaume que j'ai résumé par l'expression « vous oubliez Dieu ». Mais finalement, dans ces psaumes 73 à 83, Asaph va aussi parler, psaume 75, du jugement de Dieu, psaume 76, que Dieu est redoutable, psaume 80, Dieu sauve-nous, comme si Dieu ne sauvait pas. Donc c'est intéressant de voir qu'il y a des choses qui reviennent sur la personne de Dieu et qui nous nourrissent. Quand on lit un psaume, on peut peut-être travailler à faire des titres comme ça, qui nous permettent de savoir globalement ce que le psaume veut dire. Le 73, c'est donc le premier d'une série de 11 psaumes que Asaph va faire, et vous voyez que ces 11 psaumes se suivent. Alors que les psaumes des fils de Corée ne se suivent pas tous, ils sont entrecoupés par des psaumes de David. Il y a donc une volonté peut-être globale d'Asaph de dire quelque chose avec ses 11 psaumes et puis le psaume 50, mais il va commencer par le fait de s'approcher de Dieu. On pourrait dire que c'est un peu le béaba de la vie chrétienne qu'il veut aborder ici. Alors, rentrons encore dans ces difficultés. Si Asaph a écrit 12 psaumes qui étaient des choses certainement qu'il caractérisait, qui touchaient à sa vie personnelle, à sa vie collective, il y avait certainement des choses compliquées, peut-être entre les chefs de chœur, peut-être entre les rédacteurs des psaumes. Par exemple, peut-être que certains rédacteurs trouvaient que les psaumes d'Asaph étaient mal écrits, étaient incompréhensibles, n'étaient pas assez poétiques. On pourrait imaginer ce que les rédacteurs, les compositeurs, non, les poètes du recueil Reflets ont éprouvé quand ils ont proposé un cantique et puis que ce cantique n'a pas été accepté. Et voyez, toutes ces difficultés qui peuvent apparaître dans la vie de ces poètes et de ces compositeurs, si on dit par exemple, oui, mais ta musique, elle est trop compliquée, elle ne correspond pas bien au thème du psaume. Alors, pour entrer un peu plus dans les difficultés d'Asaph, regardons aussi les thèmes qui peuvent être notés dans ce psaume 73. Alors ici, j'ai juste mis les versets, je ne vais pas les rappeler, on les verra juste après, mais comme thème, il y a la bonté de Dieu. Bon, si on faisait une petite interrogation écrite parmi nous, là, hein, on est six à table, qu'est-ce qu'on dirait de ce que c'est que la bonté? Hein, et on serait peut-être surpris des réponses différentes. Voilà un thème sur lequel il faut rentrer. Alors, je dirais simplement, ayant été instruit dans l'étymologie par quelqu'un que j'aime beaucoup, qui s'appelle André Sailly, et que j'ai passé 25 ans à l'écouter à l'Assemblée d'Aix, eh bien, la bonté porte en elle le caractère de ce qui est bon, de ce qui est bien, de ce qui est bien fait. C'est-à-dire, la bonté, ce n'est pas la gentillesse de quelqu'un. La bonté, c'est le fait que ce quelqu'un fait quelque chose de bien. Et Tite 3, verset 4, qui nous dit que quand la bonté de Dieu et son amour envers les hommes sont apparus, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de bien, absolument bien, qui arrive avec l'apparition du Christ. Hein, voilà, la bonté. Et donc, peut-être que c'est un sujet que l'on pourrait aborder dans nos rencontres, la bonté de Dieu, pour vraiment bien comprendre ce que peut être la bonté dans le psaume. Le sens, deuxième thème du psaume 113, le sens des peines des humains. Et ici, Asaph dit, mais les peines que je rencontre, elles n'ont pas de sens, en fait. Ou plutôt, mes démarches ne trouvent pas de sens. Ma vie ne trouve pas de sens, elle n'aboutit pas. Voilà un deuxième thème qui apparaît dans ce psaume et qui mériterait qu'on s'y penche bien. J'espère que dans nos discussions, après, on pourra parler de ces choses-là. Au verset 3, la gestion de l'orgueil, Asaph voit l'orgueil des gens, mais il constate aussi le sien après. Donc, comment est-ce qu'on peut gérer ça? Heureusement qu'on en a parlé hier soir déjà avec les principes du monde. Du verset 7 au verset 11, j'ai noté les fonctionnalités de l'humain, l'œil, la bouche, la langue, etc. Que faire en fait de ces fonctionnalités? Jésus dit, si ton œil est simple, Luc 11, 34, ton être entier sera plein de lumière. Ah, comment s'approprier cette fonctionnalité de l'œil? Quel est le regard que nous portons sur nous-mêmes, sur les autres, sur Dieu, sur les circonstances? Comment s'approprier complètement la fonctionnalité de notre bouche? Hein, Jacques, au chapitre 3 de sa lettre, nous dit que la bouche est comme le mors du cheval ou le gouvernail du bateau, et quel feu elle peut allumer dans une forêt. Alors voilà, si on dit que notre bouche, on ne la maîtrise pas, c'est sûr qu'on se conditionne quelque part à mal vivre, à avoir mal. Voilà, que pense-t-on de la réussite? Voilà notre sujet, verset 12. Asaph dit, mais voilà, je n'ai pas réussi. Et comment peut-il le savoir? Comment peut-il penser qu'il contrôle sa vie, qu'il est capable, lui, d'être juge et partie et de se dire « j'ai réussi ». Voilà un autre sujet qu'on pourra aborder ensuite dans les discussions. Au verset 13 et 14, il y a son aigreur, sa colère non aboutie. Au verset 17, le fait d'entrer dans les sanctuaires. Comment peut-on apprendre à devenir un ami de Dieu, à s'approcher de Dieu? Jacques, chapitre 4, je crois que c'est verset 8 ou 9, dit « Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. » Ah, ça montre bien qu'il faut apprendre à entrer dans les sanctuaires de Dieu. Versets 18 et 20 à 20, à comprendre la discipline de Dieu pour nous et pour les autres. Versets 21 à 28, à s'engager avec Dieu. Je me suis peut-être trompé d'ailleurs dans verset 28, est-ce que ça ne doit pas être ça? Il n'y a pas 28 versets au psaume? Quelqu'un peut me le dire? Si, c'est bon? Merci. Donc ça, non, je ne me suis pas trompé.
Le décalage des versets.
Donc, voilà des thèmes du psaume 73 qui nous font un peu rentrer dans les difficultés d'Asaph, mais nous allons maintenant rentrer dans ces paroles. Et alors, voilà, j'ai fait une traduction à partir de l'hébreu pour peut-être profiter de présenter ce psaume avec ce qui me paraît être intéressant comme traduction. Je vais la lire, et les points 1 à 6 qui apparaissent sur votre diapo ne sont pas les versets du psaume, mais il me semble que ce sont les 6 choses que Asaph va dire pour décrire sa jalousie. Alors je lis, je commence le psaume d'Asaph, et vous voyez que je n'ai pas mis les versets comme si on lisait une lettre finalement, ou un chant que le poète veut nous appeler à chanter. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui sont purs de cœur. Voilà une affirmation, un peu le titre de son psaume. Hein, Dieu est bon pour ceux qui sont purs de cœur, c'est-à-dire pour lui. Mais il dit, mais moi, et moi, j'ai failli trébucher. J'ai failli glisser. J'ai failli finalement oublier que Dieu est bon. J'ai jalousé les arrogants. Intéressant de voir qu'il ne dit pas « j'ai été jaloux », il dit « j'ai jalousé ». Hein, il y a une forme dynamique, une forme verbale, une forme active. « J'ai jalousé les arrogants » et il décrit comment ? En regardant le bien-être des méchants. Et en le regardant avec une motivation qui n'est pas bonne. On peut très bien regarder le bien-être des méchants, mais quelque part se réjouir qu'ils soient dans le bien-être. Et donc il les décrit. Premièrement, rien ne les tourmente jusqu'à leur mort. Leur corps est gras. Donc Asaph regarde leurs états d'âme, il regarde longuement puisqu'il dit jusqu'à leur mort, parce qu'on pourrait se représenter quelqu'un à qui on pense, qu'on a observé jusqu'à sa mort, en disant rien ne le tourmente. Leur corps est gras, on voit bien ici peut-être qu'on n'est pas dans les mêmes époques. Ici, on ne jalouserait pas les gens qui sont gras, on dirait plutôt « Ah, ces gens gras risquent d'avoir un problème de surpoids, de cheville, de hanche, etc. » ou bien de LDL dans les dosages. Bon, mais là, quelque part, le fait que leur corps soit gras, ça montre leur richesse, ça montre leur absence de famine. Deuxièmement, il dit « Ils n'ont aucune part aux peines des humains. » Ils ne sont pas frappés comme les autres. Donc là, il y a une considération de ces gens par rapport aux peines des humains, c'est-à-dire certainement aux peines que Asaph doit ressentir. Et donc, il y a une comparaison. Il y a, Asaph montre comment sa jalousie se fait en lui, hein, dans cette comparaison. Troisième point, l'orgueil et leur ornement, la violence, leurs vêtements. Intéressant de voir qu'il est dans l'examen de leur motivation, l'orgueil, mais aussi de leur comportement, la violence. Et il y a certainement un lien à faire entre l'orgueil et la violence. Peut-être que les gens qui sont habituellement violents, qui sont par exemple agressifs, qui parlent de manière dure ou qui se mettent vite en colère avec de la violence, ne se rendent peut-être pas compte, ne font pas le lien avec l'orgueil qu'il y a derrière. L'orgueil étant, comme on l'a vu hier, cette faculté de vouloir gérer soi-même notre vie et de ne pas tenir compte de ce que Dieu veut nous dire. Et puis aussi, toutes sortes de choses après, le fait de se voir au-dessus des autres, etc. Asaph continue sa description, point 4, non pas verset 4, « Quand leurs yeux surgissent de leur visage gras, hein, on voit cette description très surréaliste en fait, hein, décrire quelqu'un comme ça, c'est un peu, c'est assez terrible. Alors, on y discerne leur motivation profonde, ils se moquent, ils mentent par méchanceté, avec hauteur. Voyez comment le physique ici, les yeux qui surgissent de leur visage gras, sont liés aux motivations profondes, la moquerie, le mensonge, la méchanceté, la hauteur ou l'arrogance. Donc, cette volonté d'Asaph de regarder les gens en discernant des motivations, ce qui, à mon avis, ne peut pas se faire. On peut avoir une sorte de lucidité sur les motivations des gens, mais on ne peut pas rentrer dans le jugement, en fait, en disant, voilà, leur motivation, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Je ne crois pas qu'on puisse dire que quelqu'un est absolument méchant. On peut discerner de la méchanceté, mais après, est-ce que c'est la souffrance de la personne ? Asaph continue avec son point 5, la description de ces arrogants qu'il a jalousés. Il place leur bouche dans les cieux et leur langue parcourt la terre. Alors là, il y a la poésie qui est là, c'est-à-dire qu'ils placent leur bouche dans les cieux, c'est-à-dire qu'ils se croient très religieux, très spirituels, mais en fait, ce qu'ils disent est très bas et finalement aura des pâquerettes. Voilà aussi une sorte d'ironie, hein, dans la bouche d'Asaph. Et sixièmement, le peuple se tourne de leur côté, là où on lui verse de l'eau, l'eau à plein bord. Alors là, il y a quelque chose d'assez cynique, d'assez, je dirais, méchant presque. Hein. C'est-à-dire qu'Asaph est en train de dire que parce que ces gens-là versent de l'eau au peuple, parce que ces gens-là font du bien au peuple par des choses matérielles, alors ils s'attirent les faveurs du peuple. Et à ce peuple qui dit, malgré tout, comment Dieu saurait-il, y aurait-il un savoir chez le Très-Haut ? Donc, ces gens-là s'attirent les faveurs des impies. Et il me semble que là, il y a quelque chose de mauvais chez Asaph. Hein, il dit ouvertement, je suis en train de dire que le peuple, finalement, n'aime pas mes psaumes, hein, mais le peuple se tourne du côté des arrogants que j'ai jalousés et que je regarde en disant, et voilà, ces méchants, toujours tranquilles, prospèrent. Alors, regardons un peu ici, revenons sur chaque point de manière assez simple, la jalousie. J'ai jalousé les arrogants en regardant le bien-être des méchants. Voilà. Il y a, ce qui est intéressant chez Asaph, qui raconte ses difficultés, et on peut dire que c'est très très, c'est un privilège de connaître ces difficultés d'Asaph. Il montre en fait d'où vient la jalousie. Il a regardé le bien-être des autres. Bon, on peut dire, mais de toute façon, quand on regarde les gens, on voit forcément leur bien-être. Mais voilà, c'est dans la manière de regarder que la jalousie va naître. Et c'est dans cette description qui va suivre qu'on entretient ou non une jalousie. La jalousie ne vient pas de nulle part. Elle vient donc de ce regard sur les autres. Et on verra après comment Asaph sort de cette jalousie. Mais on voit ici que Asaph se pose en juge de ces gens. Rien ne les tourmente. Mais qu'est-ce qu'il en sait ? Hein ? Si on regarde les gens qui sont autour de nous, et on regarde des gens qui sont bienveillants, qui sourient, qui sont bien disposés, qui font des blagues, comme la personne aux cheveux blancs et à la barbe, là, à côté de moi. On pourrait, ou celui qui met une fleur à son oreille. On regarde les gens et on peut se poser en juge en disant, mais comment ça se fait qu'ils sont toujours contents, même quand ces vers sont rayés, continuent à sourire comment ça se fait, en fait, que moi, je n'ai pas toutes ces vertus, toutes ces bonnes dispositions, je n'ai pas ce bonheur, et du coup, je m'érige en juge en disant que rien ne tourmente ces personnes. Quand Asaph va dire que leurs yeux surgissent de leur visage gras, il est cynique, c'est-à-dire cynique, vous savez, la racine de cynique, c'est chien, c'est-à-dire c'est mordre comme un chien. Leurs yeux surgissent de leur visage gras. J'espère que dans mes pensées, je n'ai pas du tout envie de juger et je ne suis pas disposé à parler de mes frères et de mes sœurs comme ça. On voit que Asaph est blessé aussi. Quand il dit « on y discerne leur motivation profonde », il se moque, il ment par méchanceté avec hauteur. Hein, c'est ce qu'il disait « j'ai jalousé les arrogants ». Peut-être que Asaph a été blessé des gens qui ont fait des commentaires sur ses psaumes, des gens qui lui ont proposé des modifications. Hein, peut-être que on lui a dit, mais Asaph, pourquoi est-ce que tu parles tant de toi ? Ou Asaph, tu parles pas assez de toi ? Ou Asaph, tu es un peu, tu n'as pas tout dit, en fait. Et voilà, comment ne pas être blessé par ces remarques de gens qui nous font des remarques ? Alors, on verra tout à l'heure comment Asaph va faire. Au passage, je vois que quelqu'un fait des commentaires, c'est bien, hein, faites des commentaires et ça nous permettra d'en parler après, hein, avec la fonction qui est en bas, un peu au milieu, sur votre diapo. Alors, quand Asaph dit qu'ils placent leur bouche dans les cieux et leur langue partout, parcourt la terre, il est critique, il critique les motivations, là aussi. Finalement, est-ce qu'il ne vaut pas mieux, comme dit Éphésiens 5, verset 20, je crois, de rendre grâce pour tout ? C'est-à-dire de ne pas critiquer les autres, mais de dire les autres, Dieu permet qu'ils vivent, Dieu permet qu'ils fassent quelque chose, donc on ne va pas les critiquer, on va finalement recevoir d'eux ce qu'on a à recevoir. Quand c'est des blessures, c'est des blessures. Quand c'est des incompréhensions, c'est des incompréhensions. Mais on va vivre ce que Dieu nous appelle à vivre. Et il me semble qu'Asaph se sent seul. Il se sent seul. Il voit que ces arrogants, eh bien, le peuple se tourne de leur côté. Lui ne veut pas être arrogant, mais du coup, il est tout seul. Et là aussi, voilà, Asaph nous fait part de ses difficultés. Sachons, comme je vous l'ai proposé en objectif au début, sachons retentir à ses difficultés et voir dans son modèle d'humanité, Asaph souffre, eh bien, ce qu'Asaph veut nous montrer. Alors, ce qui est intéressant, je trouve, dans ses difficultés, c'est qu'Asaph est conscient, alors là j'ai mis des choses dans la chronologie de ce psaume 73, il est conscient de son comportement. Voilà, j'ai failli trébucher, glisser, j'ai été jaloux, j'ai jugé les autres, j'ai comparé, donc j'ai des relations difficiles, des blessures, ce qui fait que je m'insurge quand je vois les autres prospères, et je n'aime pas que les autres soient populaires parce que moi je me sens seul. Eh bien, je suis conscient de mon besoin de justice, je ne sais pas encore comment est-ce que je vais faire avec ça, mais déjà il y a un beau modèle d'humanité. Est-ce qu'on consacre du temps à prendre notre température ? Dans notre temps de méditation avec Dieu, est-ce qu'on veut vraiment, finalement, entendre ce que Dieu a à nous dire et faire une liste de nos souffrances, une liste de nos difficultés, les souffrances extérieures, avec les circonstances, avec les gens, avec les projets qui sont contrariés, dans la famille, dans l'église, dans la société, dans ma vie individuelle, des souffrances intérieures aussi. Hein, parce que j'ai, eh bien, je pense que justice n'est pas rendue, on m'a blessé, dans mes états d'âme, j'ai beaucoup de choses qui me font du mal et je ne sais pas comment en sortir. Donc ici, il y a un beau modèle d'Asaph qui est un modèle de sincérité, un modèle de vérité, un modèle d'ailleurs qui revient dans la plupart des psaumes, c'est ce que disait Chouraki dans la première diapo, hein, où les psaumes sont 150 miroirs. Et donc nous sachons utiliser ce modèle, sachons comprendre que Dieu nous appelle à faire un peu, à prendre notre douche spirituelle, à faire un état des lieux, comme le fait Asaph. Alors, regardons un petit peu la suite du psaume, ce que j'ai appelé son chemin de libération. Il commence par dire, oui, ce qui arrive trois fois dans ce psaume, ça a commencé au verset premier, et ensuite, à partir de maintenant, oui, c'est pour rien que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé dans mes mains dans l'innocence. J'ai été battu tout le jour, mon châtiment revenait chaque matin. Si je m'étais dit de parler comme eux, comme les arrogants, j'aurais été infidèle à la génération de tes fils. J'ai réfléchi pour comprendre. Ça m'a été pénible jusqu'à ce que je sois entré dans les sanctuaires de Dieu. Et là, vous ferez attention, dans certaines traductions, c'est traduit autrement, c'est traduit ça a été je me souviens pas exactement de la traduction dans l'absolu, mais compris la pénibilité quand je suis rentré dans les sanctuaires de Dieu. C'est-à-dire qu'il a parlé de ce qui était pénible. Mais ici, j'ai vraiment travaillé sur la traduction et je crois que ce qui est pénible, c'est de réfléchir. Ce qui est pénible, c'est de réfléchir et ça cesse quand, dans la présence de Dieu, alors il comprend. Il comprend la fin des arrogants et il dit « Oui, tu les places sur un terrain glissant, tu les fais tomber en ruine, ils sont détruits en un instant, ils sont finis, anéantis par la frayeur, tu chasseras, Seigneur, leur image comme un rêve à l'éveil. » Parce que quand on se réveille, rapidement, on ne se souvient plus de nos rêves, en principe. Regardons un peu quelques caractéristiques d'Asaph dans ce chemin de libération. D'abord, c'est bien qu'on ait fait hier les principes du monde et qu'on ait un peu parlé du contrôle, c'est-à-dire de la troisième chose, hein, l'orgueil de la vie, l'arbre rendait intelligent. Il dit, c'est pour rien que j'ai purifié mon cœur. Mais qu'est-ce qu'il en sait? Comment est-ce qu'on peut faire quelque chose devant Dieu et dire, c'est pour rien? Paul dit, dans 1 Corinthiens 15, 58, abondez dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas inutile. Voilà, ce n'est jamais pour rien que je fais quelque chose. Je peux toujours être content et satisfait d'avoir fait quelque chose dans la présence de Dieu et pour Dieu, mais à moi d'en être certain. Hein, retenez bien 1 Corinthiens 15, 58, à la fin du chapitre 15, où on voit vraiment que le travail pour Dieu n'est jamais inutile. On ne peut pas contrôler, on ne sait pas ce qui réussit, on ne sait pas ce qui rate. C'est Dieu, finalement, qui fait prospérer plus ou moins notre travail, et donc à nous de travailler tranquillement. Voilà. Mais Asaph commence par dire que c'est pour rien. Et il commence par dire que c'est pour rien, et après il réfléchit. Donc, il commence par dire finalement ouvertement qu'il est dans le contrôle, qu'il est dans la propre mesure, ce qui ne lui est pas permis en fait. Hein. Il ne peut pas dire « j'ai lavé les mains dans l'innocence », il ne peut pas dire qu'il est innocent. Il se regarde. Il dit « j'ai été battu tout le jour ». Alors pourquoi est-ce qu'il a été battu? Ce n'est pas dit. Mais lui qui est un psalmiste et aussi un chef de cœur, peut-être qu'on lui reprochait de mal d'être un mauvais responsable de ses musiciens. Hein, les cymbales devaient entrer en premier, ensuite les instruments à cordes, les lyres, les harpes. Et donc peut-être qu'il y avait des choses qui ne marchaient pas bien. Peut-être qu'il était battu, peut-être qu'il y avait des choses tous les jours qui le blessait, mais il ne comprenait pas, peut-être que c'était pour son progrès, ou il n'acceptait pas que les autres fassent des remarques qui n'étaient pas si justes que ça. Mon châtiment revenait chaque matin. Et donc, il constate ses souffrances, il en fait la liste, hein, voyez, chaque jour, chaque matin, tout le jour, chaque matin. Et il dit, si je m'étais dit de parler comme eux, j'aurais été infidèle à la génération de tes fils. La génération de tes fils, donc il est vraiment en train de parler à Dieu. Il est vraiment en train de dire à Dieu, en fait, tu vois, je ne parle pas comme les arrogants. Il est en train, ici, non seulement de se mettre en victime, j'ai été battu tout le jour, mais de se justifier. Je n'ai pas parlé comme les arrogants. Donc, ici, on voit que pour son chemin de libération, Asaph, il me semble, commence par dire la vérité à Dieu. Je suis dans le contrôle, je suis victime, je me justifie, mais ensuite, il dit, je réfléchis pour comprendre. C'est là où il est en train de parler, tout à coup, son chemin se fait. C'est pour ça qu'il ne faut pas se priver de parler. Tout le vrac de nos pensées, disons-le à Dieu, ne craignons pas de le dire. Et dans ce vrac, alors, petit à petit, il y a des choses plus justes, plus triées, qui ressortent, et on est véritablement dans quelque chose d'utile. C'est pour ça que, dans nos prières, ne craignons pas de dire ce que nous avons à dire à Dieu, c'est toujours utile. Ensuite, on voit que la sagesse vient. On voit que, dans les paroles qui sont adressées à Dieu, la sagesse vient. Hein, il comprend que c'est quand il rentre dans les sanctuaires de Dieu que quelque chose de juste peut se produire, qu'il comprend quelque chose. D'où la nécessité d'apprendre à rencontrer Dieu, de le faire régulièrement, de le faire chaque jour, de prendre du temps pour l'écouter, pour méditer, pour lui parler, pour être dans cette intimité absolue qui va nous permettre réellement de faire des progrès. Le bonheur ne vient jamais dans l'absence de circonstances difficiles, il vient toujours dans la compréhension de la place que Dieu nous appelle à prendre par rapport à nous et par rapport aux autres. Alors la réflexion a été pénible, mais ça valait bien la peine, parce que Asaph non seulement comprend la fin de ces gens arrogants, oui, tu permets Dieu qu'ils soient sur un terrain glissant, tu les fais tomber en ruine, ils sont détruits en un instant, anéantis, il y a la frayeur, et quelque part leur image est chassée, il y a quelque chose qui se passe dans lequel Dieu intervient. Voilà un vrai chemin de libération, et on verra tout à l'heure comment ce chemin de libération est aussi pour Asaph. En attendant, regardons bien ce chemin, voyez cette flèche bleue là que j'ai mise sur la diapo, il commence à être dans le résultat, il se décrit comme victime, il cherche à avoir raison, il cherche à comprendre tout seul, mais finalement, il accepte cette pénibilité, il cherche à comprendre avec Dieu, il découvre des horizons et il découvre Dieu. Voilà en quoi Asaph est un vrai modèle, et nous, on prie souvent pour qu'on soit débarrassé de ceci ou de cela, mais est-ce qu'on passe vraiment le temps pour comprendre ces choses avec le Seigneur? Imaginons un peu le temps qu'Asaph a dû passer déjà pour faire son psaume. Mais je crois que si Asaph a passé du temps pour faire le psaume, alors le temps qu'il a passé pour comprendre ces choses doit être sensiblement plus important. Donc, retenons ce modèle de vérité. D'abord, dans le temps qu'Asaph a pris pour faire la liste de ses souffrances, mais aussi le temps qu'Asaph a pris pour montrer ce chemin qu'il a pris en disant ce qu'il ressentait avec Dieu et en découvrant avec Dieu des horizons et aussi la personne de Dieu. Alors on avance dans la fin du psaume et on voit cette libération qui est vraiment une application pratique pour nous. Il dit, oui, quand je maigrissais, hein, non pas quand je perdais du poids, mais quand la colère était en moi, l'amertume, quand je ressassais, je me tourmentais dans mes reins, c'est-à-dire dans ma force. J'étais stupide, je ne comprenais rien, j'étais avec toi comme une bête. Pensez à fermer vos micros, s'il vous plaît. Et il dit, mais moi, je suis toujours avec toi. parce que tu m'as tenu par la main droite. Donc, il y a des choses qu'il a comprises, il y a des choses qu'il affirme, il y a des choses qu'il affirme comme importantes. Et il dit, tu m'as tenu par la main droite, tu me conduiras par ton conseil, et après la gloire, c'est-à-dire après la mort, tu me recevras. Donc, il y a cette compréhension d'Asaph, dans laquelle il devient plus précis. Hein, il dit, qui ai-je pour moi dans les cieux ? Je n'ai de plaisir sur la terre qu'en toi. Ma chair et mon cœur sont épuisés, mais le rocher de mon cœur et ma bonne part, c'est Dieu. Donc, il reconnaît que dans son cœur, il y a de la confusion, il y a peu de force, mais il affirme que Dieu est le rocher de son cœur et il peut en faire quelque chose, un témoignage personnel qui va dans le sens de faire du bien aux autres. Voici, qui s'éloigne de toi périra, tu détruis qui se prostitue en te laissant. Quelle force et pourtant quelle simplicité. Nous savons, nous entendons que finalement, à chaque fois que nous ne demandons pas à Dieu d'intervenir dans nos souffrances, à chaque fois que nous quittons cette place de mettre Dieu au centre, de solliciter Dieu, d'affirmer à Dieu que nous sommes ses enfants et que nous voulons faire les choses avec lui, alors nous construisons notre destruction. C'est tellement simple et en même temps c'est tellement fréquent de perdre de vue que Dieu est celui qui nous construit, qui nous entretient, qui nous renouvelle. Et donc cette conclusion d'Asaph, pour moi m'approcher de Dieu est mon bien, j'ai mis ma confiance dans le Seigneur l'Éternel et je raconterai tout est fait. C'est intéressant de voir comme il passe du tu au il. Hein, il dit « m'approcher de Dieu est mon bien », c'est-à-dire il parle aux autres. Il dit « j'ai mis ma confiance dans le Seigneur l'Éternel », il parle aux autres, il témoigne, mais par contre, je raconterai tout est fait. Il se place dans la présence de Dieu et il raconte ce qui s'est passé. Voilà comment il alterne du témoignage qu'il raconte aux autres à l'expression qui s'adresse à Dieu. Et on voit comme Asaph est quelqu'un qui a pris l'habitude de mettre Dieu au centre. Hein, pour moi, m'approcher de Dieu est mon bien. Si on résume un peu ce modèle de libération, alors je vous propose trois choses. La première, eh bien, c'est de cesser de se faire mal. Discernons tous les moments où nous nous faisons du mal. Asaph dit, il ne dit pas « je suis jaloux », il dit « je jalouse ». Il dit « je maigris », c'est-à-dire « je garde ma colère ». Donc, sachons sortir de la jalousie, sachons comprendre la colère et comprendre dans quel sens est-ce que Dieu nous appelle à en sortir. « Je me tourmentais, j'étais stupide, je ne comprenais rien ». Cesser de se faire mal, c'est certainement comprendre ce que Dieu veut que nous comprenions et de ce fait, arrêter d'être avec Dieu comme une bête, comme un animal, comme quelqu'un qui ne peut pas comprendre. Et donc, c'est certainement dans une meilleure connaissance de Dieu qu'on arrête de se faire mal. Asaph dit, moi je suis toujours avec toi parce que tu m'as tenu par la main droite. Ah, combien de fois peut-on penser que Dieu nous laisse, que Dieu nous abandonne, que Dieu ne nous aime pas, que Dieu ne rend pas justice, que Dieu peut-être ne nous comprend pas, que Dieu ne répond pas. Et donc, mieux connaître Dieu, c'est finalement se permettre en nous-mêmes, dans nos pensées, dans ce qu'on entretient à tout moment, d'avoir une bonne image de Dieu. Et cette bonne image de Dieu, elle nous fait du bien, en fait. Hein, suivant, si on croit que Dieu nous révèle sa volonté, on avance, et puis ce qu'on comprend, on le met en œuvre. Si on croit que Dieu rend justice, on n'entretient pas la colère. Si on croit que Dieu nous aime et qu'il nous permet de faire ce qu'on a à faire, on n'entretient pas la timidité, la peur, etc. Si on croit que Dieu possède toutes les circonstances dans sa main, alors on n'entretient pas l'anxiété. Si on croit que tout ce qui arrive sert à l'œuvre de Dieu, alors quelque part, on ne va pas alimenter la tristesse, mais on va pouvoir se réjouir, même dans des choses difficiles qui nous arrivent. Mieux connaître Dieu, c'est vraiment au centre d'un chemin de libération et de quelque chose de très pratique pour nous. Et une dernière chose ici, c'est de tirer le son des souffrances. Non seulement on a cessé de se faire mal, mais on a vraiment à comprendre qu'on n'a plus à faire ce qu'on faisait avant. Et ici, la leçon magistrale d'Azaf, c'est qu'il ne veut plus ne plus s'approcher de Dieu. Je crois que c'est vraiment le thème du psaume d'Azaf. Il comprend qu'il ne s'était pas approché de Dieu, qu'il ne s'était pas tenu dans son conseil secret, qu'il n'avait pas finalement pratiqué quelque chose dans la durée, quelque chose dans l'objectif. Hein. Voilà, je vais passer du temps, moi, à me tenir près de Dieu, à l'écouter, à lui dire des choses, à méditer. Et quand je comprends que si je ne le fais pas, alors je souffre beaucoup, alors je pourrais tirer le son des souffrances. Voilà une application pratique pour nous que je vous propose en 3 points. Arrêter de se faire mal, mieux connaître Dieu et tirer le son des souffrances. On peut revenir avec Azaf, cesser de se faire mal dans le souvenir de ce qui a mal été fait. Par exemple, 2 Pierre 1,11 nous parle de ces gens qui ne mettent pas en œuvre des choses simples, comme, je le dis de mémoire, c'est la vertu, la connaissance. Ensuite, il doit y avoir quelque chose comme la patience, la maîtrise de soi. Il y a la piété. Et ensuite, il y a l'amour des chrétiens et l'amour des autres. Et si ces gens-là font tout simplement ces choses-là, alors ils vont mieux connaître Dieu et Jésus. Mais s'ils ne le font pas, alors ils vont oublier, nous dit Pierre, la purification des péchés d'autrefois. Ils vont oublier ce qu'ils ont mal fait. Ah, peut-être que parmi nous, il y a des gens qui voudraient oublier ce qu'ils ont mal fait. Mais Pierre dit le contraire. Pierre dit qu'en joignant à notre foi ces 7 choses, 4 plus 3, alors on va garder en mémoire ce qui a été mal fait. Mais on va du coup garder la leçon tirée. En Luc 22, 32, Jésus dit à Pierre, « Quand tu seras revenu, fortifie tes frères. Tu vas me renier, mais quand tu seras revenu, quand tu auras tiré leçon de la chose qui a été mal faite. » Et c'est certain que pour cette rencontre avec Dieu, il y a un chemin de libération, il y a un apprentissage qui est à faire. C'est pour ça que pour ce progrès dans la communion, j'ai mis Proverbe 4, 18 qui dit « Le sentier des justes est comme la lumière qui va croissant jusqu'à ce que le plein jour soit établi. » On a, nous, à apprendre à nous tenir près de Dieu et à le faire à tout âge. Voilà, je veux le faire aujourd'hui, je veux le faire demain. C'est pour ça que dans la prière que j'ai faite tout à l'heure, en commençant ces moments, j'ai dit à Dieu, à notre Dieu, nous te confions ces moments, nous voulons nous tenir près de toi, nous venons à toi, nous venons pour que tu nous fasses mieux connaître ta personne. C'est ce que dit le psaume 50, un autre psaume d'Azaf, où qu'on ne soit plus dans cette situation où Dieu pourrait nous dire, tu as pensé que j'étais comme toi, mais je te montrerai que ce n'est pas vrai. Azaf finit son psaume en disant « M'approcher de Dieu est mon bien ». Voilà, quel est le résumé que nous faisons de la vie avec Dieu ? J'ai mis Philippiens 1,21 parce que Paul le résume en disant « Pour moi, vivre, c'est le Christ », c'est-à-dire c'est travailler à la messianité de Jésus, à sa fonction de roi, de sacrificateur, de prophète, à l'œuvre de Dieu qu'il vient faire, qu'il vient... il dit « Pour moi, vivre, c'est le Christ », et donc Paul va s'associer à ce service, et il dit « Mais mourir, c'est un gain, c'est mieux de mourir ». Et il dit « Mais... » et donc, il n'y a pas photo entre les souffrances liées au service pour Dieu, les souffrances actuelles, et la béatitude dans laquelle nous serons après. Donc, il dit « Mourir, c'est un gain », donc... quelque part, je souhaite presque mourir. Mais il dit, mais s'il en vaut la peine que je serve Dieu maintenant, alors je suis bien d'accord pour le servir. Voilà un résumé de la vie avec Dieu en Philippiens 1,21 et un engagement clair pour lui. J'ai mis Josué 24:15 parce que Josué dit à cette occasion, « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel », comme l'engagement d'Asaph. Alors on voit ici ces trois choses, cesser de se faire mal, mieux connaître Dieu, tirer le son des souffrances. Voilà, dans ce chemin d'Asaph, quelque chose que j'aimerais que nous retenions. Asaph, parce qu'il parle de ses souffrances, alors il apprend à cesser de se faire mal. Jésus a dit dans le dernier verset de Matthieu 11, « Venez à moi, vous qui vous fatiguez et qui êtes chargés. » Voilà, cessez de se faire mal. Mieux connaître Dieu, c'est fantastique tout ce que mieux connaître Dieu nous donne. Et tirer le son des souffrances. Alors, j'ai fini ma présentation. Je vais maintenant donc laisser la place, peut-être en laissant à l'écran ces sujets. Ça peut être intéressant pour ceux qui voudraient. On le voit suffisamment là à l'écran ? Il faut que je le mette en plus grand ?
Non, c'est bien.
Ça va ?
La bonté de Dieu, la peine, l'injustice.
Voilà. Donc, laisser ce sujet. Par contre, moi, je crois qu'avec ça, ah si, je vais le voir avec ça. Oui, je peux voir tout ce qui m'a été proposé ici, mais on peut très bien parler ensemble maintenant, hein, soit vous adressez vos remarques avec la fonction conversée, soit vous activez votre micro et vous intervenez. Moi, je vais peut-être arrêter l'enregistrement avec ça.